Chapitre 13. Samedi 11 novembre. Anne sort épuisée de la boulangerie. C'est un jour de fête et ils ont eu un monde pas possible. Sa tante a même parlé de fermer l'après-midi, elle n'a pratiquement plus rien à vendre. Juste en face, mal garée, à cheval sur le trottoir avec les warnings, une fourgonnette attend. Anne, qui la connaît bien, la repère tout de suite. « Salut, Piem, c'est super, tu es bien à l'heure. As-tu bien dormi ?»« Mais oui, je viens juste de me lever, » dit-il avec un sourire. « Ça m'étonnerait. La grasse mat, ce n'est sûrement pas ton genre. »« Et toi alors ?» demande-t-il. « Moi, j'ai très bien dormi, mais pas trop. Je crois que le problème est là, c'était un peu court. Par contre, je me rappelle très bien avoir rêvé que je découvrais des trésors cachés dans des appartements. » C'est curieux, ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Oui, difficile à expliquer, à moins que tu ne me prennes pour un trésor. Toi, mon trésor ? Anne éclate de rire. C'est vrai, quand je t'ai trouvé, tu étais bien caché au fond de ton appartement. Ils sortent de Paris en discutant de choses et d'autres, mais dès qu'ils sont sur l'autoroute, Anne sent une douce torpeur l'envahir. Anne, hé, Anne, réveille-toi, on arrive. J'ai besoin que tu me guides, je ne sais pas où elle habite, ta copine Marianne. Quelques minutes plus tard, ils se garent comme d'habitude devant le garage de Marianne. Elle est déjà rentrée. Elle avait prévenu Anne qu'elle s'arrangerait pour rentrer tôt. Marianne a préparé un bon goûter auquel s'ajoutent les viennoiseries qu'Anne a pu sauver ce matin et qu'elle a apportées. Anne commence par faire un minimum de présentation, mais elle se sent obligée de rétablir la vérité sur Pierre-Emmanuel, son prétendu patron, soi-disant détective privé. Marianne donne ensuite quelques nouvelles de Chloé, dont elle vient de recevoir un email. Elle s'éclate avec sa comtesse. Elle mène la grande vie toutes les deux. Dans la journée, bronzage sur la plage, petit tour en Jaguar, resto de luxe le midi et le soir, resto de luxe le midi et le soir. Comme la comtesse se couche tôt, Chloé est libre de sortir et d'aller faire la fête à son aise. En somme, le paradis sur terre. Je suis vraiment contente pour toutes les deux. Je ne sais pas combien de temps ça pourra durer. J'espère qu'elles ont des idées pour la suite, surtout Chloé, se demande Anne. Mais Marianne a hâte d'entrer dans le vif du sujet. Bon, que je vous dise un peu ce que je sais de votre Antoine Perrier. L'autre jour, quand ma copine m'a donné son adresse, je suis allée y faire un tour. C'est un peu en dehors de la ville, dans un quartier résidentiel, une grosse maison bourgeoise et un ancien atelier qui sert de magasin. Ça s'appelle Antoine Antiquaire. Comme c'était ouvert, je suis entrée. Il y a quelques beaux meubles, mais dans l'ensemble, c'est plus de la brocante, toutes sortes de vieilleries. J'ai pris tout mon temps pour faire le tour et j'ai fini par m'intéresser à un petit buffet campagnard qui me plaisait bien. Notez que je ne risque pas de l'acheter, je n'ai pas d'argent pour ça. Un vendeur en costard s'est approché, un gars très jeune, 20 ans peut-être, beau gosse, mais prétentieux à faire fuir les clients. Je pense que c'était le patron, car il m'a donné le prix, puis voyant que j'hésitais, il m'a tout de suite proposé une remise de 25% pour me faire plaisir, parce que c'était moi. Bien sûr, j'ai dit que j'allais réfléchir. Je suis revenue le lendemain, en début d'après-midi cette fois. J'avais pris un mètre et j'ai noté les dimensions de mon buffet pour voir où je pourrais le mettre. J'ai revu M. Antoine et j'ai aperçu deux autres gars qui paraissaient travailler là. Un jeune a l'air sympa et venu demander conseil à son patron. Je pense qu'il doit travailler à réparer les meubles ou quelque chose comme ça parce qu'il avait de la sciure sur ses vêtements. Il est reparti en traversant le bureau au fond du magasin et presque aussitôt, j'ai entendu une machine qui démarrait. L'autre gars est un jeune, lui aussi, un grand costaud avec l'air de ne pas avoir inventé l'eau chaude. Ce doit être le manutentionnaire de la boutique. Il s'occupait à passer mollement le balai dans les allées. Je suis repassée encore hier pour dire qu'après vérification, le petit buffet était encore trop gros pour entrer chez moi à l'endroit où je voulais le mettre. et j'ai refait tout le tour du magasin en disant que je cherchais une petite armoire rustique pour mettre dans une chambre. Là encore, je ne risquais rien, il n'y avait que de grandes armoires en magasin. Mais Antoine, Monsieur Antoine, m'a dit qu'il allait recevoir de nouveaux lots dans les jours prochains, je n'avais qu'à repasser de temps en temps. Je suis sortie. Le grand costaud était en train de charger une armoire dans un fourgon de location. Il s'appelle Gilles. Je le sais parce que Monsieur Antoine est sorti précipitamment pour l'engueuler. À mon avis, il aurait mieux fait de lui donner un coup de main parce que charger une armoire tout seul sans la cogner, ce n'est pas bien évident. Il faut que je vous dise, les clients ne se marchent pas sur les pieds dans cette boutique. En 3 visites, je n'ai aperçu que 2 autres clients. Je comprends que les affaires ne marchent pas très fort. « Mais tu es une vraie professionnelle !» s'écrie Piem. « Si j'étais un vrai détective privé, je t'embaucherais tout de suite. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demande Anne. « On cherche des preuves, » répond Piem plus sérieusement. « Des preuves qu'Antoine est l'assassin de son père, mais là, ce n'est pas gagné, car il s'est sûrement prévu un alibi en béton, comme d'avoir passé la soirée à jouer aux cartes avec ses 2 zèbres. On va plutôt chercher des traces du vol. » Les 223 000 francs, il ne les a sûrement pas déjà tout dépensés. Il ne les a pas mis à la banque non plus. Donc ils sont là-bas, dans son bureau ou dans la maison. Au fait, cette maison bourgeoise, c'est bien lui qui l'occupe ? Oh oui, j'en suis presque sûre. Parce que la deuxième fois, quand je suis arrivée en début d'après-midi, il en sortait. Et je n'ai rien vu aux abords ou aux fenêtres qui laisserait penser qu'une famille l'habite. « Eh bien, reprend Piem, je crois qu'une visite s'impose. On pourrait commencer par faire un tour au magasin pour repérer un peu les lieux, voir à qui on a affaire. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut prévoir de continuer en fouillant sérieusement, comme nous l'avons fait chez le père Perrier, je veux dire sans autorisation. »« Comme des cambrioleurs, si je comprends bien. » »« Oui, en langage cru, c'est ça. » »« Ce ne sera pas facile, intervient Marianne. » Il y a une énorme grille qui est sûrement fermée la nuit et j'ai l'impression que Gilles, la douce brute, doit aussi servir de gardien et dormir sur place. Effectivement, ça complique un peu les choses. Mais allons déjà en reconnaissance sur les lieux, on trouvera bien quelque chose. « Je vous accompagne, » dit Marianne. « Ils te connaissent, je ne sais pas si c'est bien qu'ils nous voient avec toi, » intervient Anne. « Mais vous avez besoin de moi pour vous guider jusque là-bas. »« Alors, je te propose un rôle pas très exaltant, mais essentiel pour notre sécurité. »« Oui ?»« Tu vas monter à l'arrière de la fourgonnette avec l'appareil photo et un téléphone portable. »« Je tâcherai de me garer juste en face de la grille. »« À travers la vitre sans teint, tu pourras surveiller tout ce qui se passe dans la propriété. »« Si tu vois bouger quelque chose, tu mitrailles. » Et si ça tourne mal, ce sera à toi de prévenir les flics. Comme j'ai mon portable, on restera en communication et on te tiendra au courant de tout ce qui se passe. « Ok, ça me va, » répond Marianne. « Prépare-toi une thermos de café, tu risques d'en avoir besoin. »« Et moi ?» demande Anne. « Dans quel coin comptes-tu me laisser avant d'aller te jeter dans la gueule du loup ?»« Je crois que je n'ai pas le choix. » « Ce n'est pas que ça m'enchante de te faire courir ce genre de risque, mais je sais que tu n'accepteras jamais de ne pas m'accompagner. Il faudrait que je t'enferme ou que je t'assomme. »« C'est vrai ce que tu me disais hier. Tu me connais assez bien, mieux que je le croyais en tout cas. Donc, je t'accompagne. »« Oui, mais tu feras attention à toi. Je ne tiens pas à te ramener abîmé ou en morceaux. »« Je ferai très attention. » »« Bon, alors, d'accord. » Piem se tourne alors vers Marianne. « La boutique d'Antoine ferme bien à 19h comme les autres. »« Oui, 9h midi et 14h 19h. »« Bien, alors si nous arrivons vers 6h30, 7h moins le quart, ce serait pas mal. »« On traîne un peu dans la boutique, on repère tout ce qu'on peut et on essaie de se faire enfermer, sinon dans le magasin, au moins dans la propriété. »« Cela nous évitera de devoir escalader la grille. » « Marianne, as-tu vu s'il y a un chien ?»« Non, ça ne me dit rien. »« Je l'espère, sinon on risque de se faire repérer avant d'avoir rien pu faire. » Il leur reste une heure à peu près avant de partir. Comprenant qu'il n'y aura sûrement pas de dîner avant une heure avancée de la nuit, et profitant de ce que le goûter n'est pas desservi, ils s'y remettent. Il reste des viennoiseries d'âne, du cake de Marianne, et ils refont chauffer une pleine casserole de chocolat chaud. Un peu avant de partir, Piem explique à Marianne le maniement de l'appareil photo qui peut prendre des clichés de nuit grâce à un système infrarouge. Avec Anne, il s'habille d'une tenue sportive et sombre, mais suffisamment ordinaire pour ne pas attirer l'attention lors de leur visite au magasin. Il n'oublie pas d'emporter chacun une lampe de poche, une paire de gants. Piem garde sur lui son téléphone portable et son appareil photo miniature pour faire des copies de documents ou de pièces à conviction. Il est 18h40 lorsque la fourgonnette vient se garer discrètement juste en face de la grille. Anne et Piem en sortent d'un air dégagé. Il fait déjà sombre, le temps est sec et frais. Il reste quelques minutes à discuter devant la grille, comme s'ils n'étaient pas d'accord sur l'opportunité d'une visite dans la boutique d'Antoine Antiquaire. En fait, ils prennent le temps d'observer les lieux. Juste derrière la grille, actuellement ouverte à deux battants, se trouve une petite cour qui sert de parking aux clients. Ensuite, sur la droite, précédée d'une pelouse avec quelques massifs, une grosse maison bourgeoise à trois niveaux pourrait passer pour abandonner. Côté gauche, donnant directement sur la cour, un long bâtiment de style industriel abrite le magasin de vente et sans doute plus au fond, l'atelier dont a parlé Marianne. La cour et l'entrée du magasin sont illuminées par quelques projecteurs. Au-dessus de la vitrine, qui tient toute la façade côté cour, de grandes lettres colorées bordées de noir indiquent « Antoine Antiquaire ». Piem dit tout à coup « Regarde ce qui est écrit sur le mur, au-dessus de Antoine Antiquaire ». Anne regarde dans la direction indiquée, mais ne perçoit d'abord que quelques traces de peinture bleue sur les moellons du mur. Elle remarque ensuite qu'il s'agit, ou plutôt qu'il s'agissait de lettres. Elle repère un M, puis N, puis RI. Un peu plus vers la droite, il y a un P et à la fin du mot, IR. « Menuiserie Perrier », dit Piem. « Non, tu crois ?»« J'en suis sûr. Essaie de placer les lettres. Tu verras, ça colle. » C'est surprenant parce qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est assez cohérent. Émile Perrier a dû léguer sa maison et son atelier à son tout jeune fils quand il a pris sa retraite et qu'il est allé s'installer à Paris. Bon, on y va? Si quelqu'un nous observe de l'intérieur, il doit se demander ce que nous fabriquons. Allons-y, entrons. Le magasin, assez vaste, occupe toute la largeur et une partie de la profondeur du bâtiment. Tout au fond se trouve un grand bureau vitré et une pièce cloisonnée, séparé par un couloir qui mène à une double porte. Dans le bureau, un jeune homme en costume a l'air absorbé dans des papiers. Un éclairage fluorescent blafard, une propreté générale laissant beaucoup à désirer et toutes sortes de bricoles poussiéreuses qui traînent un peu partout donnent un air misérable, presque abandonné, à ce qui ressemble plus à un dépôt qu'à un véritable magasin. Il y a pourtant, ici et là, d'assez beaux meubles présentés sans goût. Anne, qui ne voit rien qui puisse intéresser leur enquête, furette entre les allées quand elle s'entend appeler. « Chérie, chérie, viens voir !» crie Piem, le nez dans une grande armoire normande. Sur le coup, Anne est un peu surprise. Elle n'a pas l'habitude de se faire appeler « chérie », encore moins en public, et comme ils sont seuls dans le magasin, ce ne peut être qu'à elle que Piem s'adresse de cette façon cavalière. Elle finit par répondre « Oui ?» « Viens voir cette armoire, elle est géniale, non ?» Anne s'approche. « C'est moi ta chérie ?»« Mais oui, on est un jeune couple, non ?» Anne a tout à coup l'impression de revivre une histoire connue, le faux amoureux qui profite de l'occasion pour faire d'elle ce qui lui plaît. Avec Jean-Baptiste, elle est consentante, mais elle ne permettra pas à Piem d'aller aussi loin. Mais Piem ne la touche pas. Tout en faisant des gestes pour lui désigner l'armoire, il lui murmure « Tu as vu en entrant, dans l'angle de la cour, contre le mur extérieur, il y a une petite cabane à outils. En sortant, on longera la vitrine et on tâchera d'aller s'y planquer. Maintenant, il faut qu'on s'approche du bureau, voir s'il y a un coffre-fort ou quelque chose d'intéressant. » Piem se déplace et va examiner un buffet qui est présenté juste contre le bureau. Anne le suit, ne serait-ce que pour éviter de se faire appeler chérie depuis l'autre bout du magasin, ce qui l'agace prodigieusement. Du coup, Antoine, ce ne peut être que lui d'après les indications de Marianne, sort de son bureau et vient proposer ses services. « Je peux vous renseigner ?»« Oui, s'il vous plaît, » répond Piem. « Cette armoire là-bas, au milieu du magasin, est vraiment très belle. Ça me rappelle chez ma grand-mère. Elle en avait une comme ça dans sa chambre. Le problème, c'est sa taille. Vous n'auriez pas la même en plus petit ? Enfin, quand je dis la même, une qui ressemble. Notre appartement est tout petit. » Antoine ne peut s'empêcher de faire la grimace. Il perd son temps avec des rigolos pareils. Pour le moment, nous n'avons que ce que vous pouvez voir autour de vous, mais je reçois régulièrement de nouvelles choses. Passez de temps en temps. » Et M. Antoine rentre dans son bureau, sans plus s'occuper de ses clients, auxquels il a peu de chances de vendre quelque chose. Tout en continuant à fureter de droite et de gauche, Anne et Piem se dirigent progressivement vers la sortie. Une fois dehors, ils suivent la vitrine, l'air très intéressé par les quelques fauteuils et canapés poussiéreux qui la garnissent. Antoine n'a pas relevé la tête pour suivre la sortie de ce couple de clients sans intérêt. Alors, tranquillement, au lieu de se diriger vers la grille, il s'approche de la cabane. C'est une sorte de maison miniature qui doit faire 2 mètres sur 2, construite en dur, avec un toit de tuiles à 2 pentes, une porte en façade et une lucarne sur le côté. Piem ouvre la porte qui n'est pas fermée à clé. « Ah, c'est les poubelles. J'espère que ce n'est pas le jour de les sortir. » Il entre et se glisse derrière 2 grosses poubelles à roulettes. Anne le suit et referme la porte derrière elle. « Ça m'étonnerait, » répond-elle. « Je n'en ai vu aucune dans la rue. » Derrière les 2 poubelles est placée une vieille table de bois, et sur la table, des pots de fleurs, des petits outils, tout un bric-à-brac d'outils de jardin. Un peu de lumière provenant du magasin pénètre par la lucarne. Piem range et fait un peu de place sur la table. On risque d'attendre un moment. On sera mieux assis sur la table que par terre ou debout. On va attendre combien de temps ? Je ne sais pas trop. Il faut que le magasin s'éteigne et que tout se calme. Il est 7 heures... Au minimum, 1 heure ou 2. Ils profitent de ce temps creux pour converser au téléphone l'un après l'autre avec Marianne qui, elle non plus, n'a pas très chaud dans la fourgonnette, bien que cette futée ait prévu le coup et se soit munie d'un duvet. Avec la tombée de la nuit, le froid se fait pénétrant même à l'abri de la cabane. Il ne gèle pas, mais on ne doit pas en être loin. Anne sent le froid l'envahir, elle remonte ses jambes qu'elle serre dans ses bras. Voyant qu'elle grelotte, Piem lui passe son bras sur les épaules. « Dis-moi si ça te gêne. »« Non, au contraire, c'est sympa, tu me tiens chaud. » Anne se serre un peu plus contre Piem. Collés l'un à l'autre, ils résistent mieux au froid pénétrant. Ils attendent patiemment et en silence le moment d'agir. Plus tard, le magasin s'éteint enfin. Une grosse voiture noire, une BMW d'après Piem, sort du chemin entre le bâtiment et la maison, traverse la cour, franchit la grille et disparaît. Un grand costaud à la démarche un peu lourde arrive à son tour et referme la grille. À son allure, c'est bien Gilles. Il fait demi-tour et regagne les bâtiments. Il referme la grille et rentre. C'est donc qu'il dort bien ici, conclut Anne. Piem saute sur ses pieds. On va pouvoir y aller, mais d'abord réfléchissons. Antoine vient de partir en voiture. On peut penser qu'il ne va pas revenir tout de suite. Mais le gars qui travaille à l'atelier, dont nous a parlé Marianne, on ne l'a pas vu. J'espère qu'il ne dort pas ici, lui aussi. Sans doute termine-t-il plus tôt. Enfin, Gilles, le gardien, il faut absolument qu'on repère où il se tient. « Alors, on y va ?» demande Anne, qui est prête à tout pour bouger et se réchauffer. « Oui, je propose qu'on fasse d'abord prudemment le tour du bâtiment et qu'on tâche de repérer une fenêtre allumée. On sera plus tranquille quand on saura où est la chambre de Gilles. » Ils sortent de la cabane. L'éclairage public dans la rue donne une certaine clarté dans la cour. Ils passent devant la vitrine toute noire, puis, empruntant le chemin central, ils longent le bâtiment sur toute sa longueur. À mi-parcours, sur la droite, se trouve la grosse maison d'Antoine. Elle est percée d'une petite porte donnant sur le chemin, juste en face d'une autre porte qui doit donner dans le bureau du magasin, car elle est au milieu du long bâtiment. En continuant le chemin, ils dépassent la grosse maison et aperçoivent une sorte de terrasse ou de parking sur l'arrière. À ce niveau, une grande porte à deux battants, presque au bout du bâtiment, doit permettre les livraisons pour la partie atelier. Piem s'approche de la porte et tente de l'ouvrir. Curieusement, la poignée tourne et la porte s'ouvre. « Tiens, ils ont dû oublier de fermer en partant !» dit Anne. « Génial, dit-il, on va pouvoir visiter l'atelier. Mais avant, il faut vraiment savoir où se cache le fameux Gilles. » Ils continuent le tour du bâtiment. À l'angle, ils quittent le chemin et tournent à gauche. À cet endroit, personne ne passe jamais. La nature a repris ses droits. Heureusement, ce n'est pas la belle saison. Les ronces empêcheraient tout passage. Ils longent le fond de l'atelier et n'ont encore aperçu aucune lumière. Ils tournent encore une fois à l'angle et s'engagent sur une bande étroite de 2 mètres de large entre le mur de clôture et la grande longueur du bâtiment. En face d'eux, tout au bout, se trouve la cour d'entrée et la cabane des poubelles dans laquelle ils ont attendu si longtemps. Plus près devant eux, sur le mur de clôture, un carré de lumière est projeté. Après s'être bien bagarré avec les ronces, ils y arrivent. En prenant du recul pour ne pas se faire voir, ils peuvent observer l'intérieur de la pièce éclairée. C'est bien la chambre de Gilles qui se partage avec le bureau, le milieu du bâtiment, séparant le magasin de l'atelier. Gilles, pieds nus, est vautré sur son lit. Il mange une sorte de sandwich en regardant la télé qui doit se trouver dans l'angle, à côté de la fenêtre. « C'est bien !» murmure Piem. « Au moins, on sait où il loge, le gardien. Je n'ai pas l'impression qu'il ait l'intention de bouger d'ici à un moment, à moins qu'il ait des rondes prévues. » Ils font demi-tour et reviennent en arrière. Anne questionne. « Maintenant qu'on a vu les lieux, qu'on sait où est le gardien, qu'est-ce qu'on fait exactement ? L'argent volé, on ne va pas le trouver qui traîne sur un guéridon. » Tout en continuant à progresser, Piem répond à voix basse. « Ce qu'on cherche, ce sont des traces de cet argent volé dans le tiroir du père Perrier. Si on pouvait retrouver quelques liasses de billets dans une cachette ou les pochettes en plastique noir, un agenda avec une indication particulière le soir du crime ou un livre de comptes mentionnant une forte rentrée d'argent. Je ne sais pas trop ce qu'on peut trouver, un indice qui permettrait d'innocenter ou d'accuser Antoine. Un indice qui nous permettrait au minimum d'indiquer une piste sérieuse à la police. » On ne peut pas leur dire « Allez voir chez Antoine Perrier, il nous semble suspect », mais si on peut leur dire qu'on a trouvé une chose qui établisse une relation entre Antoine et le vol-assassinat de son père, ça devrait être suffisant pour qu'ils s'intéressent de plus près à son cas. Ensuite, les preuves, ce sera à eux de les trouver. « Je suis d'accord. On commence par jeter un coup d'œil à l'atelier ?»« Oui ?» D'autant plus que la porte étant ouverte, ce sera facile. Et à moins qu'il y ait un coffre-fort dans la chambre de Gilles, on aura visité tout le bâtiment. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Cet Antoine paraît très ambitieux et doit jouer perso au maximum. Donc s'il a caché quelque chose d'important, il l'a forcément mis dans sa maison, où il doit être le seul à pénétrer. Ses employés ne sont sûrement pas dans le coup et il doit tout faire pour éviter qu'ils aient des doutes. « On visite quand même l'atelier ? Allez, on y va !» La porte métallique s'ouvre sans trop grincer. À l'intérieur, dans le noir complet, un mélange d'odeurs de bois et de résine synthétique les accueille. Le son un peu assourdi d'une télévision leur parvient, rassurant. Ils allument leur lampe de poche en prenant soin de limiter la lumière avec les doigts. Il leur faut tout de même voir un peu pour ne pas tomber ou renverser du matériel qui, par un bruit de chute, pourrait attirer le gardien. Cet atelier comporte 2 zones. au centre, le véritable atelier de réparation de meubles. On pourrait même dire de reconstruction, car les meubles en cours de restauration sont complètement démontés, les portes et les tiroirs d'un côté, les panneaux et les montants rassemblés à part. Des pièces détachées traînent un peu partout, au sol, sur les machines et sur les établis. Tout autour, contre les murs, c'est la zone de stockage. Serrés les uns contre les autres, des dizaines de meubles attendent leur tour. Ce qui est curieux, c'est que presque tous ont été touchés. À certains, il manque les portes, à d'autres les pieds ou la corniche. Beaucoup sont démontés plus ou moins complètement et ne ressemblent plus guère qu'à un tas de planches. « C'est curieux, » murmure Pienne, « ils les réparent tous à la fois. Il me semble que je ferais plutôt ça un par un ou par deux ou trois. Mais tous à la fois ?»« Finissons le tour, je ne suis pas tranquille ici, avec le gardien juste derrière la porte. » À ce moment, on entend une sonnerie de téléphone dans la pièce à côté. Anne et Pienne s'arrêtent net, l'oreille aux aguets. Ils n'entendent rien de la conversation, mais le son de la télévision est brusquement coupé. Une porte claque. Ils se regardent, ils risquent de se faire surprendre, il faut réagir au plus vite. Traverser l'atelier, franchir la porte et aller se cacher dans le terrain serait la solution la plus sûre, mais le temps risque de manquer. Le mieux est sans doute de se cacher sur place. D'un regard circulaire, ils cherchent une bonne planque. Dans une armoire, ce serait l'idéal, mais elles sont toutes à moitié démontées. Ils peuvent aussi s'accroupir simplement derrière un meuble, mais ils risquent d'être trop facilement découverts. « Là !» dit Anne en désignant un énorme et vieux pétrin vermoulu qui n'a plus de pied. Une porte le recouvre. Pienne fait un signe d'assentiment et fait glisser la porte pour voir la place qu'il y a à l'intérieur. À ce moment, ils entendent une sorte de grondement qui s'amplifie. Le bruit est bien caractéristique. C'est un camion qui recule dans le chemin, juste derrière le mur. Il vient sûrement pour charger ou décharger des meubles. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que la porte s'ouvre. Anne enjambe cette sorte de baignoire de bois et s'allonge au fond sur une planche poussiéreuse. S'entraîner, Pienne, qui ne voit pas d'autre solution pour lui, la suit. Il s'allonge à son tour en prenant soin de ne pas écraser sa coéquipière. On entend alors le grincement de la grande porte. Pienne, en appui sur un coude, fait de nouveau glisser la porte qui sert de plateau pour enfermer leur abri. Immédiatement, les tubes fluorescents du plafond clignotent et une lumière blanche inonde l'atelier. Anne se sent terriblement tendue. Que va-t-il se passer? Et si on la découvre là, à espionner et à se cacher comme une voleuse? D'après ce qu'Anne entend, ils doivent être trois et ils sont en train de décharger des meubles. Les deux livreurs, dont un paraît un peu éméché, se paient plus ou moins la figure de Gilles et lui laissent porter les charges les plus lourdes, d'après ce qu'ils disent en tout cas. Anne aimerait bien ne pas s'éterniser dans ce cercueil. Elle est couchée sur le ventre et elle a Pienne sur le dos, même s'il fait des efforts pour ne pas trop l'écraser. Elle sent son souffle dans ses cheveux et elle ne trouve pas ça désagréable. C'est rassurant de le savoir là, tout contre elle. Elle aurait sans doute beaucoup plus peur si Pienne s'était trouvé une autre planque en la laissant seule dans son pétrin. Le remue-ménage dure un petit quart d'heure. Il doit y avoir des choses lourdes, les trois hommes jurent. « Allez, on va laisser Gilles refermer la caverne d'Ali Baba, » déclare une voix avinée. « Et nous, on va aller s'en jeter un petit dernier derrière la cravate, histoire de se remettre de nos émotions. Je parie que Gilles n'a rien à offrir à boire à ses amis. « Si, j'ai du coca au frigo. Je vais vous le chercher. »« Du coca, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ton coca? C'est bon pour décaper les meubles, mais pour la soif des hommes, ça ne vaut rien. » « Allez, Henri !» intervient une troisième voix. « La ferme, on y va !»« Attends, je disais juste au revoir à mon ami Gilles. »« Tu te souviendras du mot magique pour refermer la caverne ?»« Ha 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 ! Et force pas trop sur le coca, que ton patron ne te trouve pas fin sou. Ha 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 !» Le camion redémarre, puis s'en va par le chemin comme il est venu. L'éclairage de l'atelier s'éteint, les grandes portes se referment avec fracas, puis plus rien. Anne reste immobile et muette pendant encore quelques minutes, puis elle s'adresse à Piem. Tu crois qu'on peut sortir ? Encore quelques instants. Je voudrais bien entendre la télé se rallumer. Tu crois qu'on peut l'entendre du fond de cette caisse ? S'arc-boutant, Piem repousse légèrement la porte qui sert de couvercle. Ça y est, je l'entends, on peut sortir. L'un après l'autre, ils s'extraient du vieux pétrin et secouent leurs vêtements couverts de poussière. Au fait, demande Anne à mi-voix, tu pèses combien ? Devine, tu devrais le savoir depuis un quart d'heure que tu m'as sur le dos. Bon, trêve de plaisanterie, sortons de là. Toujours guidés par leurs lampes de poche, ils vont droit vers la grande porte et découvrent que, cette fois-ci, elle est fermée à clé. Anne a quelques secondes de découragement. « Ce n'est pas vrai, on ne va pas rester coincés ici, c'est trop bête. Et puis, ça a beau être grand, je commence à étouffer dans cet atelier. »« Pas de panique, » déclare Piem. « Pour sortir, il suffit de retirer cette grosse barre et de pousser vers l'extérieur, les deux battants s'ouvriront en même temps. » Ce qui m'embête, c'est que nous ne pourrons pas refermer correctement derrière nous. Nous allons laisser une trace évidente de notre passage. Tant pis, il faut sortir d'ici. Anne lève la barre, Piem pousse, le pen force un peu, mais à la suite d'une nouvelle poussée, il se dégage et les portes s'ouvrent. Après avoir jeté un coup d'œil sur le chemin pour vérifier s'ils n'ont pas attiré l'attention, Piem referme le deuxième battant et Anne raccroche la barre qui le tient. Une fois dehors, ils repoussent aussi l'autre ventail, mais le pen resté sorti bute et l'empêche de se refermer complètement.